bienvenue dans ce sixième numéro d'Esprit Sport avec beaucoup de choses à aborder dans cette heure que nous allons passer ensemble. Pour m'accompagner aujourd'hui, Coraline derrière les manettes aujourd'hui qui rentre de vacances sportives. Bienvenue Coraline.
Qui rentre de vacances et qui repart vendredi en vacances.
Voilà, donc s'il y a une jingle qui part pas au bon moment ou un petit moment de latence, c'est à vous qu'il faudra se plaindre, c'est ça?
Exactement, vous m'envoyez vos courriers, j'ai hâte de les recevoir.
Oui, bien évidemment. Ils étaient tous les deux au match du Stadium hier, l'un pour parler, l'autre pour écrire. Au final, ce sont un peu nos Dupont et nos Dupont à nous. Bonjour Erwan et Corentin.
Bonjour.
Bonjour Nathan, bonjour à tous.
Petit décalage horaire, bonjour Corentin, est-ce que vous avez passé un bon week-end? D'accord, ben, et ça a l'air d'être vachement fameux comme week-end. Erwan, vous, le match Géorgie-Portugal au Stadium, comment vous l'avez vécu?
Bah, génial, incroyable, un exploit comme on en voit rarement au rugby, et si j'ai une petite préférence, je veux bien Dupont avec un D.
Je l'avais écrit avec Dupont avec un D, figurez-vous.
Voilà, bah,
mais les deux, comme
extrêmement
ça, moi,
heureux.
Les deux, comme ça, moi, j'ai pas fait de jaloux. Et c'est un petit peu le livre d'histoire d'Esprit Sport, vous savez, celui qui est plein de poussière dessus, là, mais qui est aussi chroniqueur du jour. Bonjour Eric.
Bonjour, j'ai pas de pellicule, hein. Non, pas du tout.
Non, mais ça. Parler de poussière, pas de pellicule, Eric, jamais je me permettrai.
Parce que je suis un petit peu grisonnant.
Mais pas du tout,
ça vous va.
Ça vous va très bien. Ben, je voulais marquer Georges Clounet, mais Clounet, j'ai pas su l'écrire, donc j'ai préféré
alors,
livre d'histoire.
Je suis moins gris que Georges Clounet, quand même, il me semble.
Au programme de 7h, on va retrouver les tops et les flops de l'équipe. C'est les sportifs qui ont performé et ceux qui n'ont pas réussi. À suivre un entretien en face-à-face avec Jean-Pierre Armengo, président du FC Lourdes 15, club mythique en France, avec son histoire, son parcours depuis les années d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Il sera ensuite l'heure de débattre autour d'un sujet chaud. Ça y est, les phases de poule de la Coupe du Monde sont enfin finies. Place aux phases finales, les quarts, demi et finale. Le tableau est désormais rempli et les Bleus retrouveront les Sud-Africains dimanche en quart de finale à 21h au Stade de France. Mais ce tableau est-il favorable pour le 15 de France? On y répondra dans quelques minutes. Mais pour l'heure, on commence avec l'actualité sportive de la région avec Corinne Saint-Félix.
L'Infosport avec Corinne Saint-Félix.
C'était le dernier match de Coupe du Monde de rugby dans la Ville Rose.
Oui, la Coupe du Monde de rugby aura été un vrai succès populaire à Toulouse. Chacune des équipes y a laissé sa trace avec ses supporters venus du Japon, du Fidji, du Chili, de Nouvelle-Zélande et du Samoa. Hier, pour le dernier match, les supporters ont chaviré au son de la bande avenue tout droit de Bigorre. Le Fidji-Portugal s'est terminé par une victoire des Portugais sur le score de 24 à 23.
Le TO 13 est en finale.
Oui, ça y est, c'est fait. Le Toulouse Olympique s'est qualifié pour la finale du Championships 2023. Samedi, les hommes de Sylvain Houle se sont défaits de Bradford 38 à 20 devant les spectateurs venus à Ernest Vallon. La finale aura lieu à domicile le dimanche 15 octobre à 15h30 contre le gagnant de la rencontre Londres-Featherstone, à savoir le club de Londres.
Huitième journée de Ligue 1, Toulouse et Brest font match nul.
Les joueurs du TFC affrontaient le stade brestois 3e au coup d'envoi à 15h ce dimanche. Le TFC, mis en confiance par ses récents succès, arrivait pour mettre fin à une série de 4 matchs sans défaite des Finistériens. Quelques 200 supporters du TFC ont parcouru les 1200 km jusqu'au stade Francis Leblé.
Une course endeuillée par la mort d'un commissaire en Aveyron.
Le rallye des Cardabelles compte pour l'avant-dernière manche du championnat de France de rallye sur terre. Il y avait 160 concurrents au départ, dont 20 véhicules historiques. Un accident de course est survenu samedi à Sainte-Eulalie de Cernon. Un commissaire de course a été fauché par le véhicule d'un concurrent après une sortie de route. L'homme âgé de 74 ans est décédé. En 2019, l'étape une du rallye des Cardabelles avait été annulée suite à l'accident mortel d'un spectateur aveyronnais de 19 ans, percuté par une auto en course.
Record de participation battu dans le Lot pour la Cadurcienne.
Pour ses 20 ans, elle a battu le record de participation avec plus de 3900 inscrites sur la ligne de départ ce 8 octobre contre 3640 en 2019, année du précédent record. La Cadurcienne est une course marche solidaire 100% féminine dont les inscriptions sont reversées à la Ligue contre le cancer 46 et à la recherche pour la lutte contre le cancer du sein.
Et en Coupe du Monde de canoë kayak, les Palois Marjorie Delassus et Benjamin Régnat en finale.
Comme au championnat du monde Honda Lee Valley en septembre. Marjorie de la Suisse est parvenue à se hisser parmi les 12 finalistes du canoë à Versurman qui accueillait les finales de la Coupe du Monde. Marjorie de la Suisse est en route vers les JO de Paris 2024, même si la sélection française ne sera dévoilée que le 12 octobre. Benjamin Regnat, qui vivait sa première finale en kayak slalom, a longtemps cru être médaillé avant d'être sanctionné d'une touche par le jury. Il se classe 4e.
Est-ce qu'on se risquerait au jeu des pronostics sur la finale du TO13 dimanche à Ernest Vallon à 15h30?
C'est vrai que face à Featherstone qui est un peu...
C'est pas Featherstone,
c'est ce que j'allais dire justement.
London Broncos.
C'est-à-dire que face au Featherstone, on aurait pu avoir quelques doutes parce que c'est un peu l'éternelle équipe qu'on retrouve un peu qui fait l'ascenseur en finale entre la première division et la deuxième division de rugby à 13 anglais. Mais c'est un peu comme les Doncaster Knights en première chip pour le rugby à 15. Et au final, le Théo se retrouve face à un adversaire qui était moins attendu. Le Théo a déjà gagné une finale de ce type il y a 2 ans maintenant.
Oui.
Donc on peut espérer que le Théo ait appris de cette finale, même s'il semble qu'il ne reste pas non plus, que les cadres de l'époque ne sont plus, que certains joueurs sont partis entre temps. Notamment, on peut penser à Justin Sangaré qui est parti jouer en Angleterre, il me semble, de mémoire. Et au capitaine Vaillant Marty qui a pris la retraite après la montée, il y a quelques joueurs quand même qui peuvent faire de belles choses pour espérer la montée.
Double info, il y a Perpignan qui jouera aussi sa finale, donc les deux clubs du 13 du sud de la France, même de la France, vont jouer les deux finales de rugby à 13 dans les championnats anglais. Voilà, c'était la petite aparté sur le TO 13. Tout de suite, on passe au top et au flop.
Les tops et les flops.
Et honneur aux dames, par vous, Coraline.
Et je vais commencer avec mon top. Mon top, c'est pour Thibaut Pinot, qui prend sa retraite. Alors, je le tourne d'une façon positive, parce que le cycliste de 32 ans a pris samedi, autour de Lombardie, le dernier départ de sa carrière, 14 ans. C'est compliqué de le résumer en quelques mots. Thibaut Pinot, c'est une première victoire sur son premier Tour de France, le 9 juillet 2012, à Porrenturie, en Suisse. Il est à l'époque le plus jeune coureur de ce Tour de France. 2014, c'est une troisième place au Tour de France et un maillot blanc sur les épaules. Maillot blanc signifiant plus jeune, le meilleur jeune. Le Franc-Comtois, c'est aussi surtout beaucoup d'émotions. Une hargne, rappelez-vous, lors du Tour 2019, où il est sur son vélo, blessé à la cuisse, il ne veut pas s'arrêter. Il reste que 3 jours de course, mais à bout de souffrance, il craque et met le pied au sol. Dures images qui restent dans la tête. Et cet été, ce virage Pinot qui n'a pas eu de frisson lorsqu'il a franchi ce mur de supporters venu lui apporter son soutien. Je n'ai parlé que du Tour de France parce que c'est le plus suivi dans notre pays. Mais des victoires, il en a eu bien d'autres. Donc félicitations à Thibaut Pinot pour sa carrière. Et mon flop, ça sera pour l'absence de suspense en F1 cette saison. Quand on aime le sport, on aime qu'il y ait un combat jusqu'au bout. Rappelez-vous de ce dernier tour au Grand Prix d'Abu Dhabi en 2021, qui avait d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre. Le titre s'était joué lors du dernier Grand Prix, au dernier tour, dans les derniers virages. Cette saison, Red Bull a écrasé toutes les autres écuries. Verstappen a été sacré ce week-end pour la troisième fois d'affilée, champion du monde de Formule 1. J'espère que la prochaine saison, les autres écuries auront rattrapé leur retard afin d'avoir un beau spectacle à nouveau.
Alors question, c'est à cause de Red Bull qui est trop fort ou est-ce que c'est les autres équipes qui ne sont pas au niveau?
C'est, je pense, les autres équipes qui ne sont pas au niveau.
Voilà, donc c'est de leur faute.
Bien sûr.
Voilà, ceci étant dit, on va pas s'éterniser sur le sujet, même s'il y aurait débat. On va passer à Corentin maintenant. Corentin, quels sont vos tops et vos flops de ce week-end?
Alors pour mon top, j'aurais pu parler du record du monde de marathon qui a été battu ce week-end, mais il y avait un événement un peu important sur lequel j'aurais aimé revenir, c'était ce Portugal-Fidji. C'était hier, c'était à Toulouse, et c'était beau que ce soit sur le terrain ou en tribune. Le Portugal qui s'est imposé dans les derniers instants, 24-23, face à une équipe des Fidji qui avait commencé sur les chapeaux de roue sa Coupe du Monde, qui a baissé un peu dans son régime, notamment face à la Géorgie, et qui a trébuché face au Portugal. Moi, je garde en tête notamment le coup de pied, la transformation de Marquez dans les derniers instants, ouais, vers la 79e minute, son pied n'a pas tremblé. pour aller offrir la première victoire au Portugal en Coupe du Monde. Alors les Portugais qui franchissent des étapes marquantes à Toulouse. Leur premier point en Coupe du Monde, c'était en 2007, c'était à Toulouse face à la Roumanie. Leur premier match nul, c'était face à la Géorgie cette année, encore une fois au Stadium à Toulouse. Et donc cette première victoire acquise là aussi sur les terres toulousaines. Donc voilà, saluer le parcours de cette belle équipe entraînée par Patrice Lagisquet, un staff qui vient quand même en grande partie de la France et de la formation Top 14. Et voilà, juste dire vive les nations du tiers 2 qui ont montré un très beau visage cette année. Et pour mon flop, on va parler football, mais pas forcément du terrain. On va parler de la direction que prend le foot avec un romantisme qui meurt petit à petit. Avec une Coupe du Monde 2030 qui a été annoncée, qui sera jouée dans 6 pays, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Alors, il faut savoir que l'Uruguay et le Paraguay avaient proposé une candidature séparée, que le Maroc, l'Espagne et le Portugal avaient une candidature séparée également. La belle histoire, ça aurait été que l'Uruguay puisse disputer cette Coupe du Monde dans son pays, puisque c'était il y a 100 ans la première Coupe du Monde en 1930 qui se jouait justement en Uruguay. Ça aurait été la belle histoire. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une règle à la FIFA, c'est qu'on doit faire tourner la Coupe du Monde sur les continents. Et donc, si on joue une Coupe du Monde en Amérique latine et en Europe, eh bien, la Coupe du Monde donc 2034 pourrait être attribuée facilement à l'Arabie Saoudite. Donc voilà, si vous voulez faire des efforts pour la planète, n'hésitez pas à fermer le robinet lorsque vous brossez les dents. En tout cas, le football meurt à petit feu tous les jours et c'est pas la FIFA qui va redorer cette image.
On embrasse Anne-Françoise Marie qui, j'en suis sûr, va nous faire une chronique une nouvelle fois sur l'écologie dans le foot. On va passer maintenant à Eric. Quels sont votre top et votre flop ?
Alors, vous n'allez pas être étonné, je vais vous parler de cyclisme.
Ah.
Bah oui, c'est une de mes passions. Et bon, je voulais saluer le triplé de Tadej Pogacar au Tour de Lombardie. Coraline nous a parlé de Thibaut Pinot. Et je rappelle que la grande victoire de la carrière de Thibaut Pinot fut acquise au Tour de Lombardie en 2018. Et puis, bon, bah depuis 2021, c'est Tadej Pogacar qui enchaîne. Troisième victoire consécutive. Il rejoint un autre très, très grand coureur, Fausto Coppi. Alors lui, il a gagné 4 fois de suite, hein, entre 46 et 49. Mais je pense que ça ne va pas s'arrêter de sitôt, dans la mesure où il prépare cette course chaque année avec beaucoup de soin et qui est vraiment taillé pour lui. Bon, il est encore parti dans l'ascension du col dont j'oublie toujours le nom, là. Et puis, on ne l'a pas revu malgré des crampes en fin de course. Ils ne se sont pas entendus derrière. Il a gagné avec une minute d'avance. Donc voilà, bah, bravo à Tadej Pogacar qui, cette année, a gagné, excusez du peu, le Tour des Flandres, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et le Tour de Lombardie. Le dernier qui a fait ça, je pense que ça doit être Eddy Merckx.
Ah oui, d'accord, ça remonte à quelques
années.
Ah oui,
je pense que personne n'a fait ça depuis Eddy Merckx. Bon, s'il avait gagné le Tour de France en plus, ça ce serait troisième du championnat du monde également, deuxième du Tour de France.
Ah, ça va valoir peut-être une belle chronique d'Erwan sur...
Ouais, Paris-Nice, oui, ça reste pour moi encore le grand coureur du moment et ça va durer encore quelques années. Et puis le flop, alors je vais revenir sur le match Portugal-Fidji. Pour moi, le flop, c'est vraiment l'équipe des Fidji, qui, malgré les progrès qu'on lui prête depuis des années, reste toujours une équipe extrêmement inconstante, capable de battre l'équipe d'Australie, de rivaliser avec les meilleures équipes du monde, et puis de perdre contre le Portugal. Moi, je m'y attendais un petit peu. Je dis ils vont les embêter, d'autant plus qu'ils n'étaient pas obligés de gagner. Mais il aurait mieux valu tout de même qu'ils ne perdent pas avec 8 points d'écart, puisque ça serait l'Australie qui aurait été qualifiée dans ce cas-là. Voilà, donc maintenant, ils sont tellement dans de scie que je ne serais pas étonné qu'ils
battent l'Angleterre
très fortement, voire qu'ils battent l'Angleterre en quart de finale. En tout cas, ce serait mon souhait, excusez-moi de dire ça.
Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde.
De nos amis britanniques qui nous écoutent.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui soutient l'Angleterre dans ce quart de finale. Ce qui donnerait un France-Fidji en demi-finale.
Mais vous croyez que les Français ont gagné d'avance contre l'Afrique du Sud, vous ?
Mais ça, c'est le débat
petit
Chauvin.
Ouais.
Voilà. Et justement, ça sera peut-être le débat après. Erwan, votre top et votre flop pour terminer.
Alors pour le top, je vais rester comme mes deux confrères à la table. Je vais rester sur ce Fidji-Portugal parce que c'est compliqué de passer à côté. Alors moi, surtout pour moi, c'est compliqué de passer à côté parce que qu'on a pu le voir au fur et à mesure des différentes chroniques ou des différents débats.
Vous aimez les petites équipes.
J'adore les petites équipes.
Petits
poussés. J'adore le rugby et j'adore les petites équipes du rugby. C'est un mélange qui fonctionne bien auprès de moi. Et du coup, ce Portugal, ça fait plusieurs années que je le regarde. Je me rappelle qu'au début, c'était une équipe que je trouvais intéressante au fur et à mesure des quelques matchs de 6 Nations B que j'arrivais à voir selon la qualité des streams qui étaient fournis par World Rugby, qui était, on va dire, qui dépendait des jours, s'il y avait du vent ou s'il n'y avait pas de vent. Mais au final, je suis un peu tombé amoureux de cette équipe du Portugal. Au moment où elle a failli gagner contre le Japon en 2021, et où une interception japonaise au dernier moment les a privés de l'essai de la gagne et a alourdi le score plus que ce que la physionomie du match ne pouvait laisser penser. Donc je voulais revenir un peu sur le symbolisme que pouvait avoir cette rencontre, et notamment sur si vous étiez derrière votre télé, vous avez peut-être vu un supporter, ou plutôt un papa avec son fils, qui était reconnaissable parce qu'ils avaient tous les deux un maillot donc de l'équipe de Portugal de rugby et qui avait une coiffe en forme de tête de loup. La caméra s'est beaucoup attardée sur eux, et bien il faut savoir que cet homme, le papa, s'appelle Manuel de Mascarenhas Gaivao, donc pardonnez-moi l'accent portugais, mais il faut savoir que c'est le plus fervent supporter des Loups. Ça fait plus de 20 ans qu'il suit le Portugal à chacun de leurs matchs. Il se déplace à tous les matchs. Il vient à tous les matchs du Portugal. Il faut savoir que les Portugais, on parle de moins de 5000 licenciés. C'est un petit pays de rugby et qui, pour la plupart des joueurs de cette équipe nationale, ont soit profité de l'expansion de Los Lusitanos, donc qui est la franchise au Portugal, soit de la formation française en étant des binationaux français-portugais. Et donc ce cher monsieur, ça fait 20 ans qu'il suit Los Lobos partout, il vit au Luxembourg et il se déplace donc en fonction des nations qui sont dans le 6 nations B.
Luxembourg, il supporte le Portugal et là il est à Toulouse.
Il a grandi au Portugal, il est né, il a grandi au Portugal et il est allé au Luxembourg pour travailler, il a continué à suivre le Portugal malgré le fait qu'il habite au Luxembourg. Il a un amour qui est inconsidérable envers son équipe. Il est suivi par les quelques journalistes portugais qui suivent le rugby dans ce pays-là. Notamment pour se permettre d'avoir des places plus facilement pour la Coupe du Monde, il a fait en sorte d'essayer d'être souvent volontaire auprès des différentes instances, que ce soit pour la Nation B ou pour la Coupe du Monde. Là, il a pu être présent donc pour un seul match, qui était ce Fidji-Portugal.
Ah, il a bien choisi.
Vous avez gardé vos yeux sur la télé, vous avez pu le voir à la fin du match, que la réalisation a choisi de faire un long plan sur lui, où on le voit larmes aux yeux. Il faut se rendre compte que c'est un homme qui suit depuis plus de 20 ans sa petite équipe, qui n'a jamais pensé voir évoluer ainsi au niveau, et il les voit gagner contre une équipe qu'on voit presque...
Qu'on voyait pas perdre.
Et qu'on voyait pas perdre, et qu'on voit surtout tout le temps à la télé, et qui est une équipe qui est très médiatisée, très appréciée du grand public. Les Fidji, les Flying Fijians, ce sont un peu les magiciens du rugby, tout le monde les apprécie, et faut se rendre compte de l'incroyable émotion que ça a dû être pour cet homme. Et puis même de la même manière, on peut penser à Patrice Lagisquet, qui a été un pestiféré à la sortie du Coupe du Monde 2015, et dont un peu l'histoire fait penser à celle de Saint-André, qui gagne après avec le MHR. On se rend compte qu'au final, il y avait peut-être pas que les entraîneurs qui étaient mauvais à ce moment-là, et que peut-être pas que les joueurs non plus, peut-être pas que la fédération, qui avait peut-être un peu tout le monde, et qu'au final, les personnes qui étaient là à ce moment-là ne sont peut-être pas entièrement responsables de ce qui s'était passé.
Et votre flop ?
Et pour mon flop, j'ai décidé de parler de manière un peu plus concise de Luis Enrique et de sa réponse.
Oui, l'entraîneur du PSG.
Exactement, et de sa réponse à Alexandre Ruiz après le match contre Rennes. Donc une victoire assez nette du Paris Saint-Germain, 3-1 sur la pelouse de Rennes, mais qui n'était pas si acquise au vu de la physionomie du début de match. Malgré le score, et au final Alexandre Ruiz a décidé de demander en fin de match, de manière totalement logique pour un journaliste, qu'est-ce qui a pêché pour le PSG au début du match, une question qui a vraiment mal pris Luis Enrique, et il a même refusé de s'adresser ensuite à Luis Enrique, préférant parler à Ludovic Juli, qui a été son ancien coéquipier au Barça, en lui parlant comme s'ils étaient avec un ami, et en ignorant complètement Alexandre Ruiz, et en lui disant « il n'y a que toi qui peux me comprendre de toute façon, parce qu'il n'y a que toi qui étais joueur ». Accessoirement, c'est pas hyper sympa pour Guillaume Avouba qui était juste à côté. Donc, il y a un vrai dédain envers la fonction journalistique. Et après, il a eu cette même phrase qu'on avait pu reprocher à Tourelle à l'époque, qui avait dit « de toute façon, vous ne voyez que le jeu, vous voyez que le négatif, tout le temps le négatif ». Sauf que la réalité, c'est que les questions d'avant, elles disaient « bravo pour votre match, vous avez su redresser
c'est peut-être un couac de communication.
Je dirais,
caractère catalan qui fait que...
Je dirais un couac d'égo.
Ça dans le foot, il y en a beaucoup. Justement, le foot, on va refermer la parenthèse, puisque tout de suite, il est l'heure du face-à-face.
Esprit Sport, le face-à-face.
Jean-Pierre Armengo, vous êtes le président du FC Lourdes 15. Merci d'avoir accepté cet entretien ce soir.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir à vos auditeurs.
Alors, nos auditeurs qui nous écoutent d'un petit peu partout, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire assez fascinante de votre club de rugby à Lourdes et de ses moments les plus mémorables, surtout, me semble-t-il, entre les années 1948 et 1968?
Bon, alors, question piège pour commencer, parce qu'effectivement, ces années-là, je ne les ai pas connues. Donc, c'est au travers de quelques témoignages, malgré tout, pas forcément de 1948, d'ailleurs, enfin, pour l'année la plus récente, donc 1968, l'année du dernier titre de champion de France du FCL. C'est une époque que j'aurais voulu connaître, évidemment, parce que c'était pas l'époque, bien sûr, des grands clubs comme on les a aujourd'hui dans les grandes métropoles, mais c'était des clubs de ville, bon, qui étaient quand même la preuve, hein, on n'est pas 8 fois champion de France comme ça par hasard. Donc je suppose qu'il y avait quand même tout un peuple qui suivait le club. Hein. Je sais que le record de fréquentation du stade d'Antoine Béguer, je crois, date de 1953-1954. C'est un lourd de Mont-de-Marsan où il y avait eu, je crois, 24 000 personnes au stade d'Antoine Béguer.
Ce donc, qui fait plus que la capacité d'Ernest Vallon à Toulouse.
Oui, pour un stade qui, à l'époque, enfin, n'a pas beaucoup changé, d'ailleurs, de façon structurelle aujourd'hui. Et pour le match amical qu'on a fait entre Bayonne et la section paloise cet été, un stade qui était déjà bien garni, on avait à peu près 5 000 personnes. Donc, je n'ose imaginer ce que pouvait représenter 24 000 personnes dans cette enceinte.
Et vous avez battu des équipes qui sont encore dans le championnat, hein, Toulouse, Toulon et bien d'autres équipes.
Oui, alors bien sûr, bon, y a eu l'arrivée du professionnalisme donc, en 1996, je crois, si j'ai bonne mémoire, moi aussi. Donc une petite agglomération, j'allais dire, comme Lourdes, n'a pas pu prendre le bon wagon quoi du professionnalisme, et je pense que c'était pas possible, hein, quoi qu'il en soit, parce que moi j'ai été président donc jusqu'en 95 et j'ai connu à peine un petit peu le prémisse de cette transformation. On avait joué un quart de finale du Manoir à l'époque contre le Stade Toulousain en semaine à Trélu à Tarbes, et pour nous c'était déjà une performance puisqu'on avait joué le dimanche qui précédait et on rejouait le dimanche qui suivait, donc ça faisait quasiment 3 matchs en 7 jours, voilà. Donc c'était déjà presque un exploit de pouvoir arriver à jouer ça, mais après bon, ben, je pense que tout le monde a vu la suite de ce que ça donnait, donc des grosses métropoles, Toulouse, Montpellier, Toulon,
Pau qui est à côté de Lourdes.
Alors Pau, bon, Pau on l'explique un petit peu grâce à la, je pense, au soutien d'un partenaire carburant, on va dire, ou énergie, puisqu'il s'appelle comme ça maintenant. Mais Lourdes, c'est moins de 13 000 habitants maintenant. Hein, et puis, pas tellement de Lourdes, quoi, hein, je pense. C'est ça aussi qui fait ça. À part Castres, peut-être, qui reste l'agglomération la plus modeste en termes de public. Pas de public, d'habitants, je veux dire. Et tout en se maintenant en top 14.
Donc cette belle époque où vous avez donc raflé 8 championnats de France de première division, 6 ouais. challenges Yves du Manoir et 2 Coupes de France. Et après, cette histoire marquée par le rugby total, il y a une demi-siècle un petit peu plus en déclin où il y a beaucoup de nostalgie d'un passé assez prestigieux qui a du mal à se relancer. Et vous vous retrouvez maintenant dans la poule 5 de la Fédérale 2.
Oui.
Actuellement, mais quand même félicitations puisque vous êtes dans une série de victoires toujours en cours, donc voilà, il faut quand même dire que vous êtes sur une belle lancée actuellement.
Oui, disons qu'on a bien débuté la saison effectivement, mais vous savez, la saison, il y a 22 matchs, hein, donc 12 équipes dans chaque poule, donc 11 opposants, donc 22 matchs. On a gagné les 3 premiers, on est en tête de la poule effectivement, on n'a pas marqué de point de bonus offensif, c'est un petit peu dommage, mais enfin bon, j'espère qu'on n'aura pas le regretter. L'objectif, c'est de se qualifier bon, pour éventuellement viser la Fédérale 1, je pense, qui peut être notre place.
Alors justement, on va en reparler de ces ambitions. Voilà. Comment le club de rugby de Lourdes a évolué sur le plan sportif ces dernières années? Parce que vous augmentez le rythme, vous visez la Fédérale 1.
Oui, on augmente le rythme, si on peut dire. Disons qu'il y a eu quelques soubresauts dans la direction du club donc en 2019 et 2020, puisque j'étais déjà président avant ça, et puis il y a eu une espèce de putsch, un petit peu, je pense qu'on peut, le monde n'est pas trop fort, hein, de certains membres de l'école de rugby, donc qui ont souhaité le départ du président à l'époque, puisque j'étais co-président avec Daniel Bakery. Donc nous sommes partis, d'autres présidents sont arrivés, et puis au bout de 6 mois, on est venu me rechercher, en me disant, ben oui, il y a guère que toi qui peux prendre qui peut redresser le club. Donc j'avais en réserve un groupe de joueurs qui avaient gagné le championnat des Lasken, donc 2 ans auparavant, qui s'était un peu éparpillé à Bagnères, à Lannemezan, voire ailleurs. Donc j'ai pris mon téléphone, mon annuaire, et j'ai rappelé tous ces jeunes joueurs. Et aujourd'hui, c'est eux qui constituent l'ossature essentielle de l'équipe 1, avec quelques renforts qu'on est allé chercher aussi, parce qu'on n'a pas tous les postes disponibles. Mais je pense qu'on a déjà vu le prémisse l'an dernier, puisqu'on avait les deux équipes qualifiées. Et puis cette année, ben, les deux équipes, on parle de l'équipe 1, mais l'équipe B est également en tête de la poule, ex aequo. Et puis les juniors et les cadets marchent pas trop mal aussi, donc... Pour l'instant, les voyants sont au vert.
Eh bien, les voyants sont au vert et on vous souhaite voilà. Plein de bonnes choses, Erwan.
Oui, vous parliez du fait qu'il y avait cette distance avec le professionnalisme qui s'était fait au moment de son arrivée, avec le haut niveau par rapport au professionnalisme, excusez-moi. On peut penser aussi à d'autres villes historiques comme Tarbes, Auch, qui ont eu du mal vraiment à passer le cap du professionnalisme. Mais de la même manière, au monde amateur, il y a eu la création des nouvelles divisions, National 1 et National 2. Est-ce que c'est un nouveau coup d'arrêt aussi pour espérer viser un haut niveau, même si on parle d'un haut niveau potentiellement amateur?
Alors, je vais peut-être un petit peu avoir un avis différent. La National 1 et National 2, là, je pense que d'amateurs, ils n'en ont guère que le nom, je pense. Bon, parce qu'on sait déjà un petit peu ce que ça donne. Bon, je vois bon, Tarbes étant national, on a Lannemezan qui est en National 2. Donc je pense que ce sont des clubs déjà qui disposent de budgets quand même bien supérieurs aux nôtres, notamment Tarbes évidemment, et c'est normal. Oui, il y a d'autres villes qui ont... vous savez, il y a 3 ans maintenant, donc avec l'arrêt du championnat à cause de la crise du Covid, des journalistes m'ont appelé en me disant, cette année-là, enfin, donc la petite période où je n'étais pas président, on n'a pas gagné un seul match, et donc les joueurs étaient bien sûr particulièrement tristes, et le championnat s'est arrêté donc au mois de mars 2020. Et les journalistes m'ont appelé quand je suis revenu en me disant Lourdes a été sauvé par le Covid. J'ai dit oui, Lourdes, oui. Mais il y avait 8 poules en Fédéral 2. Ce sont les deux dernières équipes de la poule qui étaient sauvées. Donc il y a eu 16 équipes de sauvées. Et bien sûr, on pense immédiatement à Lourdes. Mais je pense qu'il y en avait 15 autres équipes qui ont profité aussi, entre guillemets, de cette situation. Mais c'est vrai que Lourdes... Attire davantage les regards ou les commentaires. Voilà, je pense que c'est un petit peu ça. Et pour en revenir donc à la fracture, on va dire, du professionnalisme, je pense qu'elle était vouée à être un jour ou l'autre. Quoi. C'est normal d'en arriver à cette situation. Et les joueurs s'entraînent de plus en plus, le niveau monte. Moi, je dis toujours que le niveau de la Fédérale 2 aujourd'hui, c'est le niveau de la Fédérale 1 il y a quelques années. Et, parce qu'on va chercher des joueurs autant que possible en Fédérale 1 pour essayer de hausser le niveau moyen de l'équipe. Et c'est la première chose que je leur dis. Et je leur dis que s'ils ont le sentiment de descendre en Fédéral 2, je dis attention, hein, on ne va pas vous chercher pour jouer en Fédéral 2, on va vous chercher pour tirer l'équipe vers le niveau de la Fédéral 1. Donc c'est vers ça qu'on doit attendre. Parce que je vois que Bagnères y est, Oloron y est, enfin, je pense que Lourdes, avec son histoire, avec son passé, mais avec son futur aussi, parce qu'on a changé d'entraîneur cette année, on a essayé aussi de se professionnaliser, entre guillemets, à notre échelle, bien évidemment, je dirais à notre échelle budgétaire.
Ben parce que ça reste le nerf de la guerre, au final, l'aspect financier pour pouvoir progresser, évoluer.
Malgré tout, on est dans un département qui est assez sinistré quand même économiquement. Il y a beaucoup d'associations, que ce soit à Lourdes, il y a beaucoup de clubs de rugby dans le département. Je fais souvent la comparaison avec Massy. Oui, Massy, c'est un club formateur, hein, un très gros club formateur, mais il y a 250 000 habitants à Massy. 250 000 habitants, c'est plus que le département des Hautes-Pyrénées. Et je crois qu'au dernier recensement, on était 228 ou 229 000 habitants dans les Hautes-Pyrénées. Donc c'est comme si dans les Hautes-Pyrénées, il y avait un seul club de rugby. Et je crois qu'on est 28 ou 29 clubs dans le département. Donc les forces sportives sont diluées, forcément, au sein de ces différents clubs.
Corentin avait une question pour vous.
Oui, je vais rester sur l'axe du développement sportif. Vous parliez un petit peu d'aller chercher des joueurs sur des clubs de Fédéral 1, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, pour vous développer, vous essayez d'aller chercher des talents ailleurs, mais surtout peut-être des jeunes joueurs qui vont pouvoir faire 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans au club avant d'être, pourquoi pas, j'ai envie de dire un peu trop gros, qui seraient récupérés par des clubs avec un plus haut niveau? Ou est-ce que vous essayez d'avoir plutôt un noyau dur qui vient de l'école de rugby et de garder un groupe qui est assez stable pour justement avoir une continuité aussi sur ce que met en place le staff?
Oui, alors, bon, évidemment, c'est un mix des deux. Hein. On a l'équipe réserve donc, qui, depuis 2 ans, donc, a la chance de récupérer donc, les joueurs issus de la formation lourdaise, quoi, des juniors, notamment qui sont entraînés par Bruno Horta, qui a pris un rôle également dans les seniors pour faciliter un petit peu leur intégration. Et puis, le rugby est fait, vous savez, de certains postes, certains gabarits, bon, qu'on n'a pas forcément sous la main. Donc, il faut aller chercher un petit peu dans le département. Hein. On va pas bien loin, hein, parce que ce sont des gens qui, il faut qu'ils habitent ici, il faut qu'ils travaillent dans loin de Lourdes. Donc, on ne peut pas aller chercher trop loin. Mais je pense que c'est un mix des deux. Et je pense que la force du groupe de coach et de l'entraîneur cette année, notamment, même si ça avait encore une fois commencé l'an dernier, je pense que c'est d'avoir réussi cet amalgame entre des joueurs un peu plus anciens qui ont côtoyé un certain niveau et puis des jeunes qui démontrent toutes leurs possibilités, toutes leurs capacités de progresser. Voilà, je pense que le lourd de nouveau, on va dire ça comme ça, puisqu'on le dit dans la matière de viticole, le lourd de nouveau est peut-être en train de d'éclore. On verra bien ce que ça donnera pour la suite de la saison.
Oui, une question qui prolonge un peu la précédente, à laquelle vous avez peut-être déjà un petit peu répondu. Dès que vous avez des jeunes joueurs prometteurs, est-ce que rapidement les gros clubs de la région viennent, entre guillemets, essayer de vous les chaparder très rapidement?
Alors, oui, forcément, parce que je pense que même au sein de leur famille, hein, de leurs parents, ils sont toujours attirés, comme dans la région de Toulouse, quelle est la famille ou l'enfant qui ne rêve pas de jouer au Stade toulousain. Donc c'est un petit peu pareil ici, bon, à l'échelle départementale encore une fois, mais bien qu'il y ait aussi la section paloise qui soit pas très loin. Mais voyez, je prends l'exemple d'un joueur, l'an dernier il a voulu aller, il était parti en Pro D2, donc à Mont-de-Marsan, il s'est aguerri, et cette année, il nous a fait confiance, il est revenu. Donc je pense que c'est tout à son honneur. On a quelques joueurs aussi en partenariat avec le TPR et la section paloise, qui, j'espère, nous les mettrons à disposition lorsque nous en aurons besoin. Ce sont des jeunes joueurs, hein, qui ont 19-20 ans, qui jouent en espoir dans leur club respectif et qui sont en double licence. Donc c'est un système un petit peu complexe parce qu'on n'a pas toujours l'information pour les avoir le jour où on voudrait les faire jouer. Mais un autre joueur également qui jouait l'an dernier, notamment à Tarbes, en espoir, est revenu aussi cette année sur Lourdes. Donc je pense que il y a quand même, ils nous font confiance. Voilà, ça c'est important. Et alors, à moins de trouver vraiment la pépite, et qui elle, bon, partira, et j'espère qu'il reviendra peut-être un jour plus tard. Mais ces deux jeunes joueurs là auxquels je fais allusion nous ont fait confiance, et je pense qu'ils ont eu le retour, puisque l'un joue régulièrement en équipe réserve et frappe à la porte de l'équipe 1, et l'autre est carrément titulaire en équipe 1 au centre. Donc, ce sont quand même des exemples qui montrent que les joueurs issus de la formation lourdaise ont leur place, éventuellement dans d'autres clubs, mais d'abord à Lourdes.
Justement, pour vous nous parler de cet avenir de ces joueurs qui reviennent au club, pour ce club à moyen-long terme, qu'est-ce que vous espérez?
Alors, la question se pose, puisqu'on a joué Riom il n'y a pas si longtemps que ça. On a vu que Riom donc a renoncé ou a refusé la montée en Fédéral 1. Et malheureusement, leur début de saison montre que je pense que ça a débouché sur une crise quand même relativement conséquente. Donc la question se poserait. Oui, ils sont derniers de la poule. Bon, ils vont peut-être pas y rester toute la saison, mais actuellement, avec le départ de deux entraîneurs, si j'ai bien compris, ils sont derniers de la poule, effectivement. Donc la question se poserait, si on avait le bonheur de jouer des phases finales et d'accéder au moins sur le papier à la Fédéral 1, je pense qu'il faudrait y aller, mais le plus dur c'est de s'y maintenir.
Oui, c'est aussi de passer ce palier et de rester dans cet objectif de fidéliser le club en Fédéral 1 pour potentiellement, j'en sais rien, 10-15 ans viser la Pro D2. Ça serait incroyable.
Non, là, je n'y crois pas. La Fédéral 1, je pense, bon, éventuellement la Nationale 2, parce que bon, on sait jamais, mais non, je pense que la Fédéral 1, c'est raisonnablement notre place, c'est ce que nous devons viser, c'est les objectifs que nous avons fixés, donc sur, donc pas forcément cette année, mais sur l'année prochaine ou voire l'année suivante. Je pense que ça peut être raisonnablement notre place, encore une fois, puisqu'on a joué il y a quelques années, on y était en Fédéral 1, donc on sait ce que c'est un petit peu.
Vous avez déjà de l'expérience dans ce domaine-là.
Oui, on a joué Bagnères, on a joué Lannemezan, on a joué Oloron, on a joué Tyros, enfin, ce sont des clubs qui aujourd'hui sont à... Enfin, Lannemezan est un peu au-dessus, bien sûr, mais ce sont des clubs qui sont à notre portée, je veux dire, mais il faut que les planètes soient alignées, il faut un budget sérieux, il faut les joueurs qui aient envie aussi d'accrocher ce niveau-là, il faut les entraîneurs, il faut du public aussi, parce que rien ne se fait sans le 16e homme, comme on dit.
Ah, on espère qu'ils vont être nombreux pour le prochain match. Eric Dupri, pour terminer.
Oui.
J'espère.
Au niveau des collectivités territoriales, il existe une agglomération Tarbes-Lourdes. Est-ce que, à terme, il serait envisageable un jour qu'il y ait une sorte de fusion et la création d'un club Tarbes-Lourdes, l'agglomération Tarbes-Lourdes, qui permettrait d'avoir plus de moyens? Alors, ce serait, au regard de l'histoire du FC Lourdes, une sorte de crime de lèse-majesté, mais est-ce que cette question a déjà été posée sur la table?
Oh là là, ça fait très longtemps qu'elle a été posée. J'ai été président pour la toute première fois en 1994, vous voyez. Donc ça remonte à quelques années. Et déjà à ce moment-là, c'était Monsieur Danglade, je crois, qui était le président du Stadeau à l'époque, puisqu'on ne disait pas encore TPR, on disait Stadeau. Et donc la question avait déjà été posée autour d'une table ronde avec le président du conseil départemental, le président du Stadeau, le président de Lourdes. Vous savez, je ne vais pas dire c'est comme Bayonne-Biarritz, mais c'est vrai qu'il y a eu en tout cas des animosités entre Lourdes et Tarbes, de la rivalité au moins. Et bon, qui s'estompe forcément aujourd'hui, parce que les gens qui ont connu cette époque-là, ben, ils sont de moins en moins nombreux. Donc, oui, il y a une communauté d'agglomération, oui, Lourdes-Tarbes-Pyrénées, qui est partenaire d'ailleurs de Lourdes, qui est partenaire de Tarbes forcément. De là à amener de l'eau au moulin de Tarbes, c'est un petit peu compliqué, parce que bon, Tarbes se plaint d'avoir un budget modeste pour le niveau auquel il joue. J'allais dire nous aussi. Mais en additionnant nos deux budgets, ça ne fait guère plus que pour Tarbes. Quoi. Donc, ça n'améliorerait pas beaucoup la situation, je pense, du Stadeau. Je ne pense pas que ça améliorerait beaucoup la situation du SCL non plus. Un espoir peut-être, oui, pour les jeunes, de rester, d'avoir une perspective de progrès, de progression à un niveau supérieur. Mais c'est pas encore fait, non, loin s'en faut, je pense.
Eh bien, merci beaucoup et on va terminer avec ces dernières paroles. Bon courage en tout cas pour le prochain match qui aura lieu le 15 octobre, me semble-t-il.
Le 15 octobre, nous allons à Grenade-sur-Garonne. Et puis évidemment, on ne va pas y rester très longtemps, puisque à 21h, il faut qu'on soit revenu à Lourdes. Un écran géant, donc
notre match. Pour
le quart de finale. Il y a un autre match à jouer.
Voilà, c'est ça.
Le dimanche soir. Et puis le dimanche suivant, on recevra l'OBRC pour un des rares derbies de cette année, puisque on a perdu pas mal de voisins au passage, Corazonaï, Pont-Long, Bizanos, tout ça, qui sont partis dans d'autres poules ou d'autres divisions.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre Amengo. Voilà. On vous souhaite bon courage pour cette saison et on suivra tout ça avec beaucoup d'attention. Encore une nouvelle fois, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à bientôt.
Merci à vous, bonne soirée.
Dans quelques instants, on se retrouve, le temps pour faire une petite pause. Juste après, on parlera F1. Hommage avec Eric Dupri, mais tout de suite un classique de la chanson et du sport. envie d'aller, d'aller puncher. Justement, tout de suite, c'est l'heure du débat. Ça y est, les phases de poule de la Coupe du Monde sont enfin finies. Place aux phases finales, quart, demi-finale et finale. Les tableaux sont désormais remplis. Les Bleus retrouveront les Sud-Africains ce dimanche 15 octobre à 21h en quart de finale. Mais ce tableau est-il favorable aux 15 de France ? On commence ce débat avec votre avis, Corentin. Est-ce que ce tableau, eh ben c'est, il se profile bien pour les Bleus ?
Oui. Pour moi, c'est un tableau qui se profile bien. Alors je dis oui mais parce que c'est exactement
parce
la même
chose
pour
le quart de finale
qui va opposer. Pour moi c'est pareil pour le quart de finale qui va opposer l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'on a les quatre favoris qui vont se rencontrer sur deux parties du tableau différentes et deux oppositions qui seront en quart de finale. Ce qui fait que quasiment on aurait la finale qui serait connue si tout se passait bien, une fois que le quart de la France et celui de l'Irlande, par exemple, seraient passés. Donc pour moi, oui, les Français ont quand même un tableau qui peut être favorable, parce que s'ils arrivent à battre l'Afrique du Sud, certes champion du monde en titre, eh bien ils vont se retrouver face soit aux Fidji, qui sont un peu en perdition depuis deux matchs, soit à l'Angleterre, qui revient un petit peu, mais qui quand même balbutie son rugby, et à qui on a quand même collé 50 grains à Twickenham il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, ça paraît quand même assez ouvert pour aller en finale. Après, dans tous les cas, quel que soit l'adversaire qui se trouvera sur le chemin des Français, il faut, pour être champion du monde, il faut être capable de battre tout le monde. Donc que ce soit les Fidji, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, qu'importe l'équipe qu'il y aura en face, il faut pouvoir être capable de la battre.
Éric Dupri me fait un grand nom de la tête. Vous n'êtes pas d'accord ?
Bah, se prendre l'Afrique du Sud en quart de finale, j'appelle pas ça un tableau favorable lorsqu'on sait qu'il y a un quart de finale Galles-Argentine et un quart de finale Angleterre-Fidji. Donc non, c'est pas un tableau favorable.
Mais est-ce que c'est pas le plus dur qui arrive tout de suite ?
Mais c'est pas forcément mieux. Mais si on s'est éliminé, je vois pas en quoi oui. ce serait une bonne nouvelle. En plus, c'est un match qui peut laisser des traces, parce que ça va être violent, on le sait. Des traces physiques, éventuellement même des cartons, des expulsions. Enfin bon, je pense que ça va être un match très très compliqué. Très très compliqué.
Se prendre
derrière l'Angleterre, qu'on n'a jamais battu en demi-finale de Coupe du Monde, certes, on leur a passé 50 points pendant le tournoi destination.
Ils ne sont pas au top.
Certes, ils ne sont pas au top, mais ils sont quand même revenus à un niveau qui pourrait être suffisant pour nous embêter. On n'aime pas trop les jouer lorsqu'ils sont à leur meilleur. Donc non, pour moi, ce n'est pas un tableau favorable du tout.
Mais Erwan, vous écoutez attentivement, mais qu'est-ce qui se passe, Erwan ?
Moi, je ne suis pas tellement d'accord.
Personne n'est d'accord.
Je pense que le tableau est favorable dans la mesure où, quoi qu'il arrive, la France... prenez logiquement, soit l'Irlande, soit l'Afrique du Sud.
Oui, pas négligeable.
Je ne dis pas foncièrement que je préfère prendre l'Afrique du Sud, mais je préfère prendre l'Afrique du Sud comme elle l'est maintenant, qui hésite sur son numéro 10, qui ne sait pas si elle doit prendre Pollard ou Leboeck, et qui par conséquent est vraiment en pleine mutation sur son système offensif. Je ne vais pas développer ce point-là parce que ce serait très long et très compliqué, mais les Springboks ont complètement changé leur manière d'attaquer. Vraiment maintenant ils font beaucoup confiance aux lignes arrière. S'il y a le retour de Pollard, c'est complètement, on balaye ce qu'on construit depuis 2-3 ans avec les Springboks. Leboeck était l'incarnation de ce renouveau, même s'il est moins bon au pied, ce qui est d'ailleurs qui était juste le cas en Coupe du Monde. En URC il est très très bon, c'est le meilleur réalisateur du championnat.
C'est le bon moment pour prendre Leboeck?
Oui, du coup je pense que oui. Et puis je pense que c'est le bon moment aussi parce que, alors je vais peut-être pas me faire des amis surtout dans la région, mais je pense que Mathieu Jalibert c'est un peu le 10 parfait pour prendre les box dans la manière dont ils défendent.
Oui.
Les box partent du principe qu'ils ont d'assez bons défenseurs pour partir en rush défense et ne pas avoir de second rideau. Ce qui veut dire que si le défenseur monte très vite sur vous et que vous arrivez à éliminer très vite le défenseur, il n'y a personne derrière, à part vaguement l'arrière qui est en troisième rideau au cas où il y aurait un 50-22. Il n'y a personne pour défendre. Et ce qui permet, et Mathieu Jalibert, on sait que s'il y a bien une chose, peut-être où il est meilleur que Ntamack, c'est sur ses appuis et sa capacité à éliminer le défenseur de très petits périmètres. Voilà, je ne dis pas forcément sa capacité à jouer les turnovers, etc., mais vraiment sur la capacité à jouer dans les très petits périmètres. Et du coup, si jamais il arrive une ou deux fois dans le match à éliminer le défenseur qui monte en pointe sur lui, il peut passer. Et puis après, pour le parler du reste du tableau,
c'est de bon augure.
Voilà. Mais je pense que c'est le joueur, le 10, le plus adapté qu'on ait pour jouer cet adversaire-là.
Après, Coraline. Pour parler du
reste du tableau.
On le verra après.
D'accord.
Coraline, est-ce que c'est bon signe au final ?
Moi, je suis plutôt de l'avis d'Eric. Je suis pas sûr quand même qu'affronter l'Afrique du Sud en quart de finale soit une bonne idée parce que En effet, j'aurais préféré affronter l'Argentine, les Fidji. Ça aurait
mais c'était pas du côté.
Effectivement,
bon
on croise
côté.
Avec la poule B, donc forcément, on avait le choix entre l'Irlande, l'Afrique du Sud
dans
ou l'Écosse.
On aurait pris le Portugal.
Eh ben, c'était bien.
Non, oui, mais non. C'est le problème de ce tirage, c'est que ça a beaucoup changé depuis le tirage.
Et c'est d'ailleurs
au sort,
ce dont se plaignait Sexton, l'Irlandais Sexton, justement, que les quatre prétendants au titre, justement, je vous vois faire des
oui,
grands gestes.
Sexton, qui est très, oui, c'est très particulier avec lui.
On savait d'emblée qu'on aurait l'Irlande ou l'Afrique du Sud
c'est
en quart de finale.
Oui,
tout à fait.
De ce point de vue, il n'y a pas de discussion entre l'un ou l'autre. Bon, je ne sais pas ce qui aurait été le mieux. Mais
le moins
pire. Encore une fois, lorsqu'on sait qu'on aurait pu se prendre les Gallois, les Argentins, les Fidjiens, voir les Anglais en quart de finale, faut pas me dire que c'est un tirage.
Non,
c'est favorable,
on est d'accord.
L'Afrique du Sud.
C'est pas favorable, mais on est au meilleur moment pour prendre l'Afrique du Sud.
C'est-à-dire que pour croiser avec la poule B, je préfère prendre l'Afrique du Sud qui me fait un peu moins peur que l'Irlande. C'est kiff-kiff. Hein,
le meilleur moment, alors qu'on ne sait pas si Antoine Dupont va pouvoir jouer et s'il joue, on ne sait pas trop s'il sera à 100%.
Il a repris,
c'est
oui.
Pas forcément le meilleur moment non plus à cause de ça.
D'autant que l'Afrique du Sud, c'est physique et on enchaîne beaucoup de blessures.
Ça,
donc
c'est
j'ai l'impression
il reste qu'il y aura un peu de casse à la fin de semaine.
J'ai l'impression que les joueurs sont quand même physiques
aussi.
Moi,
c'est... Oui, c'est un
non,
peu choisir entre
l'Irlande et l'Afrique
le
du
le
Sud.
On
est d'accord, pour moi, bon, il n'y a pas trop de différence.
Non, mais non.
Encore une fois, on aurait pu tomber dans un quart de finale.
Donc là,
si le tirage au sort, on avait décidé autrement.
Dans un monde idéal, la suite, c'est quoi? C'est Afrique du Sud, on passe.
Ah oui, ça c'est le monde idéal, parce que sinon,
attendez,
oui, ça peut pas être idéal.
Finir. Ouais, Angleterre, Fidji, Angleterre, on passe. Finale, Irlande ou Nouvelle-Zélande?
Irlande.
Oh, ça se mouille.
Ils n'ont pas gagné d'avance.
Déjà pour la dramaturgie.
Des avants gagnants, je sais pas, j'en suis pas si sûr que vous.
Il faut se mouiller, c'est plus facile de donner le score avant qu'après.
Non, mais la finale, ce sera forcément difficile, heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Quand même, si on gagne, c'est comme le France-Brésil de 90. Autant gagner contre la meilleure équipe du monde, bien sûr.
Corentin, vous vouliez participer au débat?
Oui, c'est plutôt là, mais maintenant qu'on est parti sur le tableau, je pense que si on prend l'Irlande en finale, par contre, ce sera très compliqué. Mais à mon avis, pour moi, la Nouvelle-Zélande va quand même passer les quarts de finale, parce que pour faire le rappel par rapport à ce que disait Eric sur le fait qu'on n'ait jamais battu l'Angleterre en demi de Coupe du Monde, les Irlandais n'ont jamais passé un quart en Coupe du Monde. Donc là aussi, mentalement, ils vont se retrouver face à un défi, face à une Nouvelle-Zélande qui est aussi en train de monter en puissance. Donc du côté du tableau de l'Irlande et de la Nouvelle-Zélande, je vois quand même plus les Néo-Zélandais passer.
Puis la Nouvelle-Zélande a cette faculté de monter en puissance. Ils ont fait un match d'ouverture pas terrible. Et là, on voit au fur et à mesure que, bon, c'est contre des équipes mineures, mais ils font quand même le café quand on voit que nous, on a peiné face à l'Uruguay. Erwan, sur ce tableau.
Si on prend le principe du reste du tableau, et c'est là on se demande si en demi-finale, on préfère prendre Angleterre-Fidji ou Pays de Galles-Argentine. Moi, je préfère prendre Angleterre-Fidji, excusez-moi, notamment parce que, je vois pas trop les Argentins passer, vu le niveau que les Gallois ont affiché en poule. Je peux me tromper et ce serait une belle histoire pour les Argentins, mais je pense que les Gallois, c'est une équipe qui peut facilement épuiser en poule, surtout avec le style de jeu qu'elle a repris de ces glorieuses années de Warren Gatland où on est capable d'enchaîner 20 séquences de défense sans broncher et sans faire de fautes. C'est une équipe qui peut épuiser et moi j'ai un mauvais souvenir des matchs qui épuisent de la France en demi-finale et après où ils perdent la finale en 99. Bon, ils avaient épuisé parce qu'ils avaient beaucoup joué, c'est différent. Mais en 99, on s'épuise en demi, on perd en finale et en 87, bon, on s'était plus épuisé mentalement et on arrivait, c'est ce que disaient notamment les joueurs, disaient qu'effectivement ils étaient arrivés un peu en ayant donné mentalement en finale et ils se sont rendus compte que quelques années après attendez, on a perdu une finale de Coupe du Monde là, en fait on aurait pu être les premiers vainqueurs de la Coupe du Monde je me dis que Angleterre-Fidji, ça me semble être des adversaires qui pourraient potentiellement, bien évidemment c'est une demi-finale encore des phases finales de Coupe du Monde, c'est dur à prévoir, qui pourraient pas trop épuiser.
Très bien.
Un petit rappel à ce sujet, la Coupe du Monde 2007.
Rapide alors.
Il y a cette victoire extraordinaire, l'Ams Park, de la France contre les Néo-Zélandais. À la surprise un peu générale, bon, aussi un peu contre le cours du jeu, parce qu'on a un essai qui nous a accordé, qui aurait été refusé aujourd'hui avec la vidéo. Derrière, tout le monde se dit, ah, les Anglais, chez nous, en demi-finale, on va leur marcher dessus. Eh bien, on a eu droit à un match tout pourri, comme les Anglais savent nous en infliger. Et on a perdu, et on n'a pas pu jouer cette finale chez nous. qu'on voyait tous évidente.
Bon, soyons
prudents.
On fait confiance à Fabien Galthié et son staff pour remémorer les mauvais souvenirs motiver les trois.
Moi, je reste persuadé qu'on va être champion du monde. Voilà.
Eh bien, écoutez, on en est tous persuadés ici.
Oui.
Oui.
Ah oui, le dites pas trop avec trop d'entrain quand même, ça pourrait déborder. Dans quelques minutes, justement, on va parler de ce France-Afrique du Sud, mais tout de suite, il est l'heure de rendre un hommage.
Esprit Sport, la chronique.
Et cet hommage, c'est Eric Dupri qui le fait.
Ah non, on va pas fêter, on va commémorer plutôt. Alors, je sais pas si ça va dire grand chose à mes camarades de la jeune génération qui sont autour de cette table, mais vendredi, enfin, c'était un triste anniversaire, les 50 ans de la mort de François Sever, lors des essais du Grand Prix de Watkins Glen, le 6 octobre 1973, certainement un des accidents les plus épouvantables de l'histoire de la Formule 1. Et il faut se rappeler ce qu'était François Sever à l'époque. C'était presque une rockstar, comme l'étaient d'ailleurs les pilotes de Formule 1. Ça a beaucoup changé, ça, aujourd'hui. Mais il était promis au plus bel avenir. On le voyait, le premier champion du monde français en 1974. C'était écrit. Il avait gagné son premier Grand Prix à Watkins Glen 2 ans plus tôt, en 1971. Il avait terminé 3e du championnat du monde. C'était Jackie Stewart, son coéquipier, qui était champion d'ailleurs cette année 1971. En 1973, juste avant les essais, c'est le dernier Grand Prix de la saison. Stewart est déjà champion. Il a annoncé qu'il se retirait. Il allait courir son 100e Grand Prix. Et François Sever donc se tue pendant les essais en essayant d'aller chercher la pole position. Il prend un virage un peu trop vite, à 240 km/h, il sort et il finit dans les rails de sécurité. Enfin, ceux qui ont vu les images à l'époque, la voiture, c'était plus qu'un tas de ferraille. Son corps avait été atrocement mutilé. Même c'est Scheckter qui arrive le premier sur les lieux de l'accident. Et il voit d'un côté le corps de François Sever, un peu plus loin son casque bleu. Vous imaginez ce qui a pu se passer. Voilà, ça avait beaucoup marqué le pays. Moi, j'étais un enfant à l'époque, mais je me rappelle quand même. Et je me rappelle aussi de ces obsèques. Il y avait un monde fou. Enfin, tout le monde était. Le pays entier était fondé de chagrin. Sever, c'était une icône. On l'appelait le petit prince. Toutes les jeunes femmes étaient amoureuses de lui. Il avait son poster dans la chambre parce qu'en plus, il était très beau. Il n'était pas du tout fait, a priori, pour faire de la Formule 1. Fils d'un joaillier de Neuilly, donc une famille très aisée. Il va faire de la course automobile contre l'avis de son père, alors que son père le destinait plutôt à une carrière de pianiste. Il avait fait 15 ans de piano classique. Enfin, vous voyez, il avait été invité à l'émission Radioscopie de Jacques Chancel. Je pense même que c'est le seul sportif qui a dû être invité à cette émission. Et voilà, donc je voulais rendre hommage à ce grand pilote qui aurait dû être le premier champion du monde français. L'ironie de l'histoire, c'est que 12 ans plus tard, jour pour jour, Alain Prost serait le premier et unique à ce jour champion du monde français de Formule 1 le 6 octobre 1985. Et puis, petite anecdote, Jackie Stewart, c'était l'ami, le mentor de François Sever.
Très grand ami de François Sever.
Et depuis 50 ans, il fait fleurir la tombe de François Sever tous les 6 octobre à Voldenay, où a été enterré Sever,
la
commune de naissance de sa mère.
Il faisait vraiment
rien que d'en parler, moi j'ai encore un petit peu les larmes aux yeux.
Bah, c'est une vraie chronique, on a peut-être un témoignage à écouter, Eric.
Oui, c'est un extrait justement de cette émission Radioscopie. Jacques Chancel interroge François Sever et il lui parle justement de la mort que côtoient les pilotes de Formule 1. Malheureusement, à cette époque, ça arrivait très souvent.
Que se passe-t-il dans la tête d'un garçon qui, ainsi, en peu d'années, devient quelqu'un de célèbre? Surtout lorsqu'il est très jeune.
Oh, moi, ça ne me fait rien. Ce qui m'intéresse, c'est de courir, parce que j'aime vraiment ça, et de vivre de ça. Alors le reste, ça me...
On peut en vivre lorsqu'on a votre place.
On peut en vivre quand on a ma place. On peut perdre aussi, beaucoup d'argent aussi.
Est-ce que vous pensez, François Sever, qu'on peut également en mourir?
Bien sûr, c'est le risque numéro un.
C'est un pari dangereux.
C'est pas un pari, c'est un choix. C'est un choix que j'ai fait parce que il y a deux solutions pour moi. Ou je cours en prenant le risque et je fais ce qui me plaît, ou je ne cours pas et je vis une vie qui m'intéresse pas du tout. Alors ça ne me préoccupe pas du tout, j'y pense même pas. Le choix est fait au départ et puis la ligne est tracée.
Mais il a vécu de sa passion et il en
La ligne est tracée, cette phrase est terrible. Ça se termine là-dessus.
Ouais. Mais voilà, merci beaucoup Eric pour cette chronique. Bon, au niveau ambiance, on repassera, mais en tout cas, c'était un bel hommage. Un jour aussi anniversaire, comme vous l'avez dit, du premier titre d'Alain Prost. Peut-être qu'on fêtera d'autres choses, j'espère. On fêtera.
D'autres choses plus joyeuses.
Un titre champion du monde de rugby qui serait le premier aussi.
Ah, bien écoutez, ben, s'ils sont champions du monde, vous ferez la chronique, Eric. Ceci étant dit, justement, il est l'heure de parler des pronostics avec 30 secondes chacun, top chrono, pour donner votre avis sur France-Afrique du Sud qui a lieu dimanche. On commence par vous, Corentin, 30 secondes.
Bon, je vais essayer de faire assez court, hein. De toute façon, on n'a que 30 secondes. On ne connaît pas encore la composition. Ça va être un match qui va être très compliqué pour les hommes de Fabien Galthié. Moi, je dirais un score qui va finir en 22-13, quelque chose comme ça. Ce sera serré, mais à mon avis, la botte de Thomas Ramos fera une bonne différence et on devrait avoir un essai. On le souhaite pour Damien Penaud qui se rapprocherait un peu plus de Serge Blanco, de son record, qui pourrait même le dépasser.
Très bien, mais vous avez même fait ça en avance. On va passer maintenant aux 30 secondes pour vous, Erwan. Votre pronostic, France-Afrique du Sud ?
Alors moi personnellement je parierais sur donc la France. Je pense que un peu comme Corentin, le score ne serait pas forcément serré. Je mise bien un 12 à 17, je dirais, pour la France, avec deux essais français et aucun essai du côté Springboks. Je veux bien les Springboks être punis par leur crainte de ne pas inscrire de points au pied et inscrire que des points au pied mais pas d'essais durant la rencontre. Et à l'inverse, les Français brillaient.
Très bien. 30 secondes. Corinne, est-ce que vous êtes prête ?
Je vois une victoire de la France. Match plutôt fermé. Allez, un 15-12. Match fermé. En effet, je pense que les Français ne vont pas réussir à développer leur jeu. Leur jeu de dépossession, je pense qu'ils ne vont pas réussir à le mener. Voilà, donc une victoire plutôt française.
Très bien, bah, tout le monde a des avis clairs, concis et précis. Et pour terminer, Eric, peut-être que vous allez bien faire changer ces pronostics. 30 secondes, c'est parti.
Malgré toutes mes craintes, je ne peux pas donner l'Afrique du Sud gagnant, c'est pas possible. Sinon, vous allez tous me tomber dessus en plus. Non, oui. Alors je vais être un peu plus généreux que vous. Moi, je pense qu'il y aura plus de points qu'on le croit. Donc, je vais donner une victoire de la France 27-20. Un écart d'année s'est transformé. Voilà, je vois bien un match comme ça. Il pourra se décompter sur la fin. Mais j'y crois. Voilà.
Vous y croyez. On y croit presque un peu tous autour de cette table. Eh bien, écoutez, avec quelques secondes d'avance, Eric nous a donné 27-20 pour les Bleus. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Corentin.
Merci à vous.
On vous retrouve donc pour une nouvelle émission. Tout comme vous, Coraline. Merci. Bonnes vacances.
Merci.
Voilà, on vous retrouvera pas la semaine prochaine, vous, par contre.
Exactement, ça sera dans 2 semaines.
Très bien, eh bien, on vous retrouve dans 2 semaines. Erwan et Eric, merci d'avoir été là.
Merci.
Merci.
Merci Eric pour cette chronique. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission Esprit Sport. On, évidemment, on parlera rugby, Coupe du Monde. On fera un débrief de ce France-Afrique du Sud. On débattra aussi autour d'un sujet. Un nouvel invité sera avec nous, évidemment, pour cette toute nouvelle émission. Le 7e numéro d'Esprit Sport, ce sera la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Et à bientôt.